Bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour ce conseil municipal où nous avons le quorum. Je signale quelques pouvoirs. Sandy Muller qui donne pouvoir à Nicolas Pagé. Jean-Paul Jamais qui me donne pouvoir. Lisiane Voisin qui donne pouvoir à Marité Le Maire. Et Thierry Luc qui donne pouvoir à Pierre Brunier. Bien. Je propose comme secrétaire de séance Madame Le Maire. Pas de remarques. Parfait. Je mets aux voix l'adoption du compte rendu du conseil précédent. Adopté. Je vous remercie. Bien, donc, pardon. Vous abstenez pour l'adoption du compte rendu. Donc, ok. Trois abstentions. Bien, donc, en ouvrant cette séance, je salue l'arrivée de Sandrine Priano dans notre équipe. Voilà, je la remercie de prendre le relais. D'un collègue qui malheureusement nous a quittés, ça va être l'objet d'ailleurs de la délibération qui va entamer notre conseil municipal. Voilà, en introduction aussi, je salue notre ami Benjamin qui vient d'être nommé avocat. Voilà, donc on le félicite. C'est une année faste pour... Maître, voilà, donc bonne année, il était docteur, il est voilà, donc et on travaille avec des gens de compétence et on s'en félicite dans cette équipe. Voilà, mais jamais. Bien. Donc sur ce, je prends le premier point de ce conseil municipal qui concerne, je le disais, le remplacement de notre ami Jean-Yves Marché. Monsieur Jean-Yves Marché, membre de la liste Courtaisons avant tout, étant décédé en date du 14 octobre 2018, il convient de procéder à son remplacement. En conséquence, conformément à la réglementation en vigueur dans les communes de plus de 3500 habitants, Madame Sandrine Priano, placée au rang suivant, devient conseillère municipale et remplacera Monsieur Jean-Yves Marché au sein des différentes commissions communales auxquelles il était élu. Culture, festivités, sport, associations, travaux, appel d'offres et ouverture de plis. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant le décès de M. Jean-Yves Marché, considérant que Mme Sandrine Priano est la personne de rang suivant sur la dite liste, le conseil municipal, ayant oui l'exposé du maire, et après en avoir délibéré, d'ailleurs on ne va pas délibérer, puisque c'est de fait, là, installe Mme Sandrine Priano en tant que membre du conseil municipal, dit que Mme Sandrine Priano remplace M. Jean-Yves Marché au sein des différentes commissions municipales auxquelles il était élu, procède à l'actualisation du tableau municipal en conséquence. Voilà, dont acte pour ce premier point de notre ordre du jour. Le point suivant concerne la modification des statuts de la CCPRO, le transfert de la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2019. Donc c'est une délibération qui a été prise au niveau de la CCPRO, qui doit être prise par les 5 communes membres. Cadrousse l'a fait hier, Orange, il restera après nous Jonquière qui doit le faire le 3 ou 4 décembre puisque ça doit être fait avant mi-décembre. La loi NOTRe du 7 août 2015 a attribué à titre obligatoire les compétences eau et assainissement aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Suite à l'étude technico-financière préalable restituée fin 2017, le Conseil de communauté avait, par délibération du 5 juillet 2018, délibéré de manière à intégrer cette compétence dès le 1er janvier 2019 dans ses statuts. Cette modification statutaire avait notamment pour incidence de basculer la compétence facultative gestion des eaux pluviales urbaines en compétence optionnelle, cette dernière étant de jurisprudence constante rattachée au bloc assainissement. La loi du 3 août 2018 a cependant modifié cet environnement réglementaire, dissociant désormais la compétence assainissement au rang des compétences optionnelles, de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines devant être positionnée au rang des compétences facultatives. À cet effet, la préfecture, par courrier du 2 octobre 2018, a demandé à la CCPRO de bien vouloir stopper la procédure de modification en cours et relancer une nouvelle procédure sur la base de statuts actualisés annexés à la présente. Ce point doit faire l'objet de délibérations concordantes des communes membres avant fin novembre, on nous a donné jusqu'à début décembre, de manière à ce que les nouveaux statuts soient opérationnels dans les délais. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'abroger la délibération du 20 septembre 2018 et d'émettre un avis favorable sur les nouveaux statuts de la CCPRO et le transfert de compétences eau et assainissement au 1er janvier 2019. Le conseil municipal y a vu l'exposé du maire et après en avoir délibéré, approuve la modification des statuts de la CCPRO, le transfert de la compétence eau et assainissement pour le 1er janvier 2019, autorise le maire à signer toute pièce relative à la présente délibération. Je rappelle, je l'avais déjà expliqué, que, en se donnant ces deux compétences-là, on rentre dans quelque chose qui va être obligatoire de toute façon en 2020, mais ça nous donne deux compétences supplémentaires à l'interco, qui nous permet de bénéficier de la DGF bonifiée qu'on avait perdue. On l'avait perdu parce que justement, on nous avait dit qu'on n'avait pas assez de compétences, il nous en manquait deux, on les rajoute. Concrètement, ça signifie qu'au niveau de la DGF, l'Interco va recevoir 500 000 euros, par les chiffres hein, supplémentaires, donc, d'où l'intérêt, en plus de ça, de jouer cette carte-là. Bon, on est en train d'y travailler dessus, sur le plan de la faisabilité. Voilà, donc c'était pour donner un petit peu tous les éléments. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Donc, 6... Majorité, je vous remercie. Le point 3 concerne le rapport d'activité 2017 des services de la CCPRO. Donc, alors, vous connaissez le principe, comme nous soumettons au conseil municipal les rapports d'activité de l'eau, de l'assainissement, bon, nous devons soumettre le rapport d'activité de l'Interco dont nous faisons partie. Donc la délibération, elle est très rapide, elle prend quelques lignes et on prend acte, hein, il n'y a même pas de vote. Par contre, on vous avait mis un lien pour que vous puissiez aller voir ce que représente ce contenu de l'activité CCPRO. Je l'ai rapporté au niveau de la CCPRO il y a trois semaines et un mois. Bon, j'ai apporté le document qui est le document papier, parce qu'on dit que il faut plus le faire de papier, mais c'est quand même plus intéressant. Donc, qui relate toutes nos activités CCPRO dans l'année 2017, qui portant sur toutes nos compétences, encore une fois, obligatoires, optionnelles, facultatives, c'est les éléments que je viens d'évoquer, par exemple, pour l'eau et l'assainissement, où on aborde, après, s'il y a des questions, je répondrai. Hein. C'est un état de fait. Hein. Donc, sur ce rapport, voilà, les compétences obligatoires, je les rappelle, l'aménagement de l'espace, le développement économique, l'accueil, l'aire d'accueil des gens du voyage et les déchets des ménages et assimilés. Dossier dont je vous parlerai un peu à la fin, questions diverses. Dans les compétences optionnelles, la protection de l'environnement, le logement, l'aménagement et l'entretien des voiries et les compétences facultatives, l'assainissement non collectif, les eaux pluviales urbaines, les milieux aquatiques, les risques majeurs, la maintenance des installations d'éclairage public et l'observatoire du territoire du système d'information géographique, ce qu'on appelle le SIG. Alors dans ce rapport, il est relaté toutes les commissions qui ont été tenues, et puis les pôles de compétences, la compétence cadre de vie et développement durable, c'est Serge Fidel qui en est le vice-président, et là on explique justement toute l'importance de la collecte des déchets, combien ça coûte, etc. Bon, ensuite, les travaux, c'est moi qui en suis le délégué. Bon, et là, c'est pareil, quelles sont les sommes qui sont consacrées aux travaux. 7 millions, on va être clair, il y a 7 millions de travaux qui ont été consacrés. Là-dessus, il y en a 85% pour la ville d'Orange. Hein, donc, ensuite, la planification territoriale. Donc là, c'est l'habitat, le logement, c'est Louis Biscara. Donc tout ce que ça représente, GEMAPI. Donc là, c'est Xavier Marco. Donc toute la gestion des milieux aquatiques et de la protection des inondations, le développement économique et tourisme, ça c'est Claude Avril, le maire de Châteauneuf, avec la Grange Blanche 2, la Grange Blanche 3 qui s'ouvre, le tourisme, etc. Voilà, après on relate donc différents services supports, les ressources humaines, la direction des finances, etc. Voilà. Donc c'est un état des lieux, à quelque sorte, de notre interco. Je vous lis le projet de délibération. La loi du 12 juillet 99 relative au renforcement à la simplification de la coopération intercommunale, dite cheminement Dans un souci de démocratisation, de transparence et d'établissement public, coopération intercommunale a rendu obligatoire un rapport annuel. L'article du Code général des collectivités prévoit que le président de l'EPCI adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal, ce que je suis en train de faire, en séance publique. Ce rapport est consultable en ligne sur le site internet de la communauté, c'est le lien qu'on vous avait donné dans l'explicatif. Le conseil municipal, l'exposé du maire, prend acte du rapport d'activité 2017 de la communauté de communes du pays réuni d'Orange. Dont acte. Le point suivant, le point 4, deuxième rapport que j'ai porté aussi, c'est le rapport d'activité 2017 sur le prix et la qualité du service, ça concerne les déchets ménagers. Donc, alors, pareil, bon, si je dois, vous deviez aller le consulter, on vous parle de tous les tonnages, de tous les coûts que ça représente. Bon, la collecte sélective, les ordures ménagères, on y a travaillé encore cet après-midi, avec Marité était présente, mais je vous en dirai un petit mot à la fin. Bon, la prévention des déchets, voilà, l'indice de réduction des déchets, c'est un point qui est fondamental, mais je vais revenir parce que je trouve que c'est important. Voilà, l'organisation de la collecte, comment ça se passe. Les horaires d'ouverture des déchetteries, entre parenthèses, j'en profite, puisque ça a été discuté un peu cet après-midi. Bon, les déchetteries, ce que les agents nous ont fait remarquer, c'est qu'il y a des personnes, bon, la déchetterie ferme à midi, à 17h. Bon, il y a des gens qui arrivent à midi moins 5. Donc, et du coup, les agents, pour pas mettre les gens dehors, restent jusqu'à midi 10 et quart, bon. Et ça pose un problème d'heures, etc. Et puis, bon, et à un moment, un syndicat, c'était question même la responsabilité de dire est-ce qu'on ouvre jusqu'à midi et quart, mais je dis si on ouvre jusqu'à midi et quart, ben après on passe à midi et demi. Donc je dis bon, on va essayer de faire passer les messages aux gens que ben, s'ils voient la déchetterie, si tu vas à un endroit, tu mets une lettre dans une boîte, tu peux arriver 30 secondes avant la fin, avant la fermeture, ça va. Mais là, quelqu'un qui arrive avec un fourgon qui est plein, il y en a pour demi-heure, c'est indécent d'arriver à midi, moins 3 ou moins 5. Voilà. Donc, j'ai dit aux agents, n'hésitez pas si quelqu'un arrive à midi, moins 10, moins 5, en ayant une énorme remorque, de lui dire, eh ben, tu reviendras cet après-midi, parce que, bon, plus ou moins, ce sont souvent des gens, si c'est dans la journée, ils sont inactifs, ou en congé, ou retraités. Donc, ils pouvaient venir une heure avant. Je fais passer un peu le message. Voilà. Donc, les déchetteries, les déchets collectés, etc. Bon, là, on indique que tous les employés liés à cette collecte et etc. Bon, les sommes, les budgets, en gros, pour faire simple, c'est un budget de 5 millions et quelques euros, donc, qui est couvert justement par la taxe d'ordures ménagères. Bon, mais où il faudra faire des efforts, d'autant plus que Delta Déchets ferme au mois de mars 2019 et que là, il va falloir qu'on prenne le taureau par les cornes. C'est pour ça que je voulais en toucher un petit mot dans les questions diverses. Donc, je vous lis, la communauté des communes réunie d'Orange est compétente en matière de collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. Le Code général des collectivités dispose que le président de la communauté des communes présente au conseil un rapport annuel. Ce rapport est le premier concernant un nouveau territoire communautaire. Conformément aux dispositions, ce rapport annuel est mis à disposition du public par voie électronique. Le conseil municipal y a oublié l'exposé du maire. Prend acte du rapport d'activité annuel sur le prix et la qualité du service de la communauté du pays réuni d'Orange. Bien. Ensuite, nous passons au point 5, concerne la taxe de séjour. Mise en place de la télédéclaration et du télépaiement. La communauté de communes du pays réuni d'Orange a institué une taxe de séjour sur l'ensemble de son territoire depuis le 26 juin 2006 afin de financer son office intercommunal de tourisme. Par délibération du 27 septembre 2018, la CCPRO a fixé les nouvelles modalités d'assujettissement des hébergeurs qui entreront en vigueur au 1er janvier 2019. De manière à faciliter les procédures de déclaration et de paiement pour les hébergeurs et optimiser les conditions de recouvrement de cette taxe par la CCPRO à l'aide du numérique et de l'administration, la CCPRO et l'OTPRO ont travaillé ensemble sur une solution logicielle permettant dès le 1er janvier de proposer aux hébergeurs la dématérialisation, mettre à disposition des hébergeurs une plateforme de télédéclaration, mettre à disposition de l'administration communautaire des outils automatisés de relance, dématérialiser le paiement en offrant la possibilité aux hébergeurs de reverser la taxe de séjour par carte bancaire, disposer d'un observatoire des nuitées touristiques et de connaître ainsi la structure et l'évolution de l'offre touristique sur le territoire. L'OTPRO va prochainement mettre à disposition de chaque commune et de manière gracieuse une plateforme d'enregistrement et de dématérialisation des SERFA permettant de faciliter la procédure d'enregistrement pour les propriétaires de meublés de tourisme, de chambres d'hôtes et d'ainsi automatiser l'actualisation des bases de données hébergeurs. La procédure d'enregistrement des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes relevant de la pleine compétence de la commune, il est proposé à l'Assemblée délibérante de se prononcer sur la dématérialisation des SERFA. Vu les articles du Code du tourisme, vu les articles du Code du tourisme relatifs à la déclaration en mairie, vu la délibération du Conseil de communauté relative à la mise en place de la télédéclaration, considérant l'intérêt d'accompagner cette dématérialisation, le Conseil municipal y a oui l'exposé du maire et après en avoir délibéré. L'objet du vote approuve la dématérialisation des SERFA de meublés de tourisme et des chambres du territoire communal. Prend acte que cette dématérialisation permettra à la CCPRO en charge du recouvrement de la taxe de séjour de tenir à jour la liste des hébergements du territoire et d'optimiser son recouvrement. Dit que la mise en place de ces nouveaux services fera l'objet d'une communication adaptée de la CCPRO et de son OTPRO auprès des agents communaux, des hébergeurs et des particuliers. Autorise Madame le maire, première adjointe, à signer toute pièce rapportant à la présente délibération, vu le fait que je suis sur les deux casquettes. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Au passage, je juste fais un petit commentaire. On a fait pas mal de changements déjà sur la collecte de la taxe de séjour. On a une personne de la CCPRO qui s'appelle Monsieur Latard et que je remercie chaque fois que je le vois. C'est quelqu'un de très efficace. Il nous a fait presque doubler la collecte de la taxe de séjour. Ceci dit, on s'aperçoit que beaucoup de gens trichent encore dans le système qu'on met en place là. À la fois, si vous voulez, c'est clair, c'est pour qu'on fasse plus de recettes, mais aussi pour qu'il y ait une question d'équité. C'est-à-dire que souvent, on n'aime pas payer, mais on paye volontiers quand on sait que tout le monde paye. C'est plus embêtant quand on se dit qu'on paye que le voisin d'à côté qui a la même activité ne paye pas. Donc, c'est le fait d'arriver à bien centraliser ces éléments. Le point suivant concerne la création d'un service public de défense extérieure contre l'incendie. Bon, alors c'est quelque chose, vous allez voir, qui nous est imposé, donc on va le voter, mais... pas forcément, bon, c'est ainsi. Le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie fixe les règles aux procédures de création, d'aménagement, d'entretien et de vérification du point d'eau servant à l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie. Par arrêté du 10 janvier 2017, le préfet de Vaucluse a arrêté le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie pour le département de Vaucluse. Cet arrêté fait suite au dernier texte réglementaire en la matière, texte qui se trouvait codifié dans le Code général des collectivités territoriales. Les articles contre l'incendie concernent, définissent son objet. Les communes doivent assurer en permanence l'alimentation en eau des moyens de lutte contre l'incendie, distinguent la défense extérieure contre l'incendie du service public de l'eau et des réseaux potables, éclaircissent les rapports juridiques entre la gestion de la DSI et celle des réseaux d'eau potable, inscrivent cette compétence en gestion au rang des compétences communales, permettre le transfert communal facultatif de la DSI aux établissements publics de coopération intercommunale afin de permettre la mutualisation. Ainsi, la DSI a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau incendie, PEI. Les communes sont donc compétentes pour la création, le dimensionnement des besoins, l'aménagement, le contrôle et la gestion des points d'eau nécessaires aux interventions du SDIS. Par ailleurs, c'est pas fini. L'article du CGCT a créé la police administrative spéciale placée sous l'autorité du maire. L'article L5211 rend possible le transfert du pouvoir de police spéciale de la DSI du maire vers le président de l'EPCI à fiscalité propre si le service public de DSI est transféré à celui-ci et que l'ensemble des maires des communes membres le décident. La police administrative consiste en pratique à fixer par arrêté la DSI communale ou intercommunale à décider de la mise en œuvre, à arrêter le schéma communal ou intercommunal de la DSI et de faire procéder au contrôle technique. Dans le cas des PEI privés, le maire ou le président des EPCI s'assure du contrôle périodique des PEI privés par le propriétaire exploitant. Il peut donc être amené à lui rappeler cette obligation, en particulier à ce que la périodicité du contrôle n'est pas respectée. En cas de carence, il peut réaliser d'office ses contrôles aux frais du propriétaire des exploitants. Le service public de DECI assure la gestion matérielle de la DECI. Il porte principalement sur la création, la maintenance, l'entretien, la position de signalisation, le remplacement et l'organisation des contrôles techniques, des PUI et l'échange d'informations avec les autres services. Le service public de DECI est une compétence de la commune. Il est décrit à l'article R222.5. Il peut être organisé en régie propre par délégation. Il est rappelé que les PUI à prendre en charge par le service public de DECI ne sont pas ceux connectés au réseau d'eau potable. Les PUI peuvent être raccordés à d'autres réseaux sous pression ou être des points d'eau naturels ou artificiels. La collectivité compétente en matière de DECI peut faire appel à un tiers pour effectuer tout ou partie de ses missions par le biais d'une prestation de service. Monsieur le maire demande au conseil, conformément à la réglementation en vigueur, de créer le service public de défense extérieure contre l'incendie et l'autoriser à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents afférents à cette décision. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret du 27 février 2015, vu l'arrêté du 10 janvier 2017 du préfet arrêtant le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie porté par de Vaucluse, le conseil municipal est exposé du maire et après avoir délibéré, j'ai dit vote, décide de créer un service public de défense extérieure contre l'incendie et d'avoir recours à un prestataire par le biais d'une prestation de service conformément au code des marchés publics qui assurera le contrôle technique des points d'eau d'incendie tous les 2 ans. Autorise monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents afférents à cette décision. Pour être complet, si vous voulez, on s'est peu posé la question, mais voir si on pouvait faire ça en régie. Mais pour faire ces contrôles, il faut des équipements techniques dont on a vu le coût, et on s'est dit que pour les quelques postes qu'on avait, c'était plus rentable, donc on dépensait moins en passant par un prestataire qu'en assurant en régie. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. 3 abstentions. Majorité, je vous remercie. Le point 7 concerne le rapport d'orientation budgétaire et débat pour 2019. Bien, alors là c'est pareil. Donc la délibération, elle prend quelques lignes. Nous avons fait une commission des finances. Nous vous avons mis à votre disposition donc ce rapport que j'ai moi-même ici, rapport d'orientation budgétaire. Enfin, aux dispositions, si vous êtes allé les chercher, quoi. Donc, voilà. En commission des finances, j'avais donné les éléments et chiffrés. Le rapport, il était mis à votre disposition. J'en donne les grandes lignes comme d'habitude. Après, sans problème, je suis prêt à répondre aux questions. Donc, je rappelle que ce rapport, avant, on disait le DOB, le débat d'orientation budgétaire. Bon, ça veut dire qu'il y avait débat. Aujourd'hui, il y a marqué rapport d'orientation budgétaire, ça veut dire qu'à la limite, on n'a même pas à débattre. Bon, mais ce rapport d'orientation budgétaire ouvre le budget qui va d'ailleurs suivre le mois prochain. Bon, ce qui fait que, pour être clair, quand on vous présente le rapport d'orientation budgétaire, on a affiné déjà notre budget, mais on n'a pas le choix. Hein. C'est-à-dire que pour savoir où on va, il faut bien qu'on ait mis un petit peu tous les éléments. Et pour se dire, bon, ben effectivement, ce rapport d'orientation budgétaire peut conduire, enfin va conduire les communes à au moins 2 grandes décisions qui peuvent être, quand c'est nécessaire, de toucher au taux d'imposition, à la mesure où on s'aperçoit qu'au niveau du fonctionnement, on n'arrive pas à équilibrer. Et au niveau de l'investissement, ça concerne les emprunts, c'est-à-dire que, bon, eh bien, on veut faire des investissements, si on n'a pas suffisamment d'autofinancement ou de subventions, eh bien, on ira chercher les emprunts. Voilà les points qui sont les plus importants. Donc, je tiens à dire, je le redirai lorsqu'on votera le budget, moi je me félicite du bon partenariat qui existe entre les élus référents dans leur domaine de compétences, puisque chacun doit dire, ben j'ai besoin de ça, mon service pour fonctionner doit faire ça, donc les élus et puis les techniciens qui ont vraiment à charge de respecter, de gérer leur budget en beau père de famille, et en particulier de se dire que bon, ben on essaie de faire des économies un peu de partout. Donc c'est à partir de là que bon, on arrive à avoir une orientation budgétaire qui est pour moi bien positive. Alors dans le document qui vous était fournie. Alors, j'ai des éléments réglementaires, on vous donne des éléments d'ordre global sur la commune. Bon, au niveau de la taxe d'habitation, bon, au niveau du foncier bâti, bon, ces chiffres-là, vous les avez, hein, mais c'est pour les rappeler, la taxe d'habitation, enfin, on va voir ce qu'elle va devenir, voilà. Donc, la taxe d'habitation, au niveau de Courtaison, elle est à 152 euros par habitant. Bon, j'ai toujours raisonné, moi, en ménage, je disais qu'on tournait à peu près à 300 et quelques euros, donc voilà, par ménage, en moyenne. Moyenne, ça signifie qu'il y a des gens qui n'en paient pas, il y a des gens qui en paient beaucoup plus. Mais on est dans un taux qui est relativement bas. Le foncier bâti est à 315 euros par habitant. Donc c'est une charge qui est beaucoup plus lourde, enfin qui représente le double, mais qui est en recette essentielle pour la commune. Et le foncier non bâti est à, c'est-à-dire toutes les terres agricoles, viticoles, etc., et revient à 83 euros par habitant. C'est pour vous donner une idée de grandeur. Pour faire simple, alors, les éléments même nos techniques, j'arrondis énormément, mais c'est pour donner clair, la taxe d'habitation, c'est 800 000 euros, le foncier bâti, c'est le double, et le foncier non bâti, c'est la moitié. Ça vous donne, voilà, ça vous donne les points de repère. Voilà. Donc ça, ce sont les recettes locales qui nous sont attribuées. Bien, ensuite, on vous fait apparaître dans ce document l'évolution de la masse salariale. J'en parle chaque fois, c'est très important. Nous avons une très forte maîtrise de la masse salariale. Ça se fait pas toujours facilement, parce que ça signifie que, bon, voilà, on est soumis, d'ailleurs, c'était le cas, si vous comparez les éléments budgétaires 2017, donc 2018, au budget que nous préparons 2019, on va se dire, tiens, il y a une forte baisse entre 2019 et 2018. En fait, quand on a budgété 2018, on était dans l'expectative de la suppression de tous nos contrats aidés. Et comme il y avait des postes qui étaient de toute façon indispensables, on les a programmés en salaire plein. Bon, il s'avère qu'on a réussi ensuite à avoir quelques contrats, ça change vite entre un contrat aidé et un contrat plein. Voilà. Ce qui fait que si on ramène, ça paraîtra là, le compte administratif aux dépenses réelles de fonctionnement des salaires de 2017 et 2018, on a une évolution qui est à la marge. Cette évolution qui légèrement progresse, eh bien, elle prend en compte, ben, les évolutions de carrière, l'ancienneté, la réussite au concours, etc. Voilà. Mais on est dans des ratios qui sont bons. Je le rappelle aussi, on est autour, voilà, faire simple, la masse salariale, c'est en gros 45-46% de nos charges d'exploitation. Il y a des communes qui sont à 60. Je le dis parce que c'est quand même important. Nous, si on était à 60, on serait HS. Voilà. Donc, c'est parce qu'on arrive à bien maîtriser la charge masse salariale, tout en assurant quand même des prestations importantes. Il faut bien appeler les choses comme ça. Voilà. Alors ensuite, bon, que vous dire? Bon, bon, la masse salariale. Bon, après, bon, mais on a, voilà, les dépenses de fonctionnement programmées pour 2019 s'élèveront à 5 545 000. Donc, et en baisse de 1,50% par rapport au budget 2018. Voilà. Mais, entre autres, le fait que l'on a pris en compte de pouvoir utiliser des contrats PEC, là où, à un moment, on était obligé d'avoir des salaires c'est un des points importants. D'autre part, il est certain aussi qu'on continue notre politique d'économie dans beaucoup de domaines, dans la renégociation de certains contrats, etc. Et on se prive pas de services, mais on fait en sorte de réduire la facture. Voilà. Donc, après, ben, il y a énormément de chiffres. Après, j'aurai l'occasion de vous les donner, puisque vous les retrouverez dans le cadre budgétaire. Bon. Après, c'est point par point, ça figure dans le document qui vous a été fourni. Pour faire simple, résumé, le fonctionnement aboutit. Donc, je rappelle que du coup, on ne touche pas les taux d'imposition, encore une fois, donc on ne les augmente pas. Et à la sortie, on dégage un excédent de fonctionnement de l'ordre de 350 000 euros, bien qui est reporté en investissement. En investissement, recettes, dépenses, Donc, ça devient un peu récurrent, il faut le redire, il faut l'expliquer, c'est important. C'est-à-dire que nous, en votant le budget en décembre, on ne peut pas avoir le résultat de l'année qui apparaîtra dans le compte administratif. Donc, on va se retrouver avec un emprunt d'équilibre de l'ordre de 850 000 euros. Mais on sait déjà que notre excédent devrait atteindre 1 million d'euros, ce qui fait que on aura à nouveau en 2019 un exercice qui se clôturera sans emprunt. L'intérêt, c'est que notre ligne de charges financières se réduit chaque année, puisqu'il y a moins d'emprunt, on rembourse 300 et quelques mille euros d'emprunt chaque année. Donc ça nous réduit les charges financières, tout en réalisant quand même en 2019 le clocher de l'église, la crèche, les travaux ADAP, hein, qui se font chaque année, et toute une série d'opérations qui sont équipements mobiliers, informatiques, encore un véhicule cette année. Voilà, donc en gros, il y a 2 millions et quelques euros de travaux qui vont être financés. Et puis, nous avons aussi des subventions en attente, mais tant qu'elles ne sont pas engagées, on ne les inscrit pas. Donc, on a à peu près 300 ou 400 000 euros de subventions en attente, ce qui fait que si on les avait inscrites, on réduirait encore d'autant la ligne d'emprunt équilibre. Il y a aussi une opération que j'ai oubliée, c'est l'aire de lavage pour les agriculteurs, qui est de l'ordre de 300 000 euros. C'est une opération vase communicant, ce soit bien clair, c'est entendu avec eux. Ça passe chez nous parce que nous avons 80% de subventions. Donc, et les 20% autres, c'est le monde agricole qui va utiliser ces stations, qui le paiera. Donc, c'est une opération qui va être réalisée. C'est un plus pour la commune, qui n'impacte pas le budget de la commune, ce qui était normal, puisque ça s'adresse à des entrepreneurs pour qui c'était un outil important. Voilà, j'essaie de brosser un petit peu tous ces éléments. Une remarque aussi, l'année prochaine, puisque vous avez vu, on transfère l'eau et l'assainissement, donc c'est la CCPRO qui va gérer, donc il n'y aura pas à mettre en place un budget eau et un budget assainissement, ils seront propres à l'intercommunalité. Alors, je vous lis le rapport. Depuis la loi d'administration territoriale de la République, la tenue du débat d'orientation budgétaire s'impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, c'est un document essentiel pour permettre de rendre compte de la gestion de la ville. L'article du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale, loi NOTRe, a voulu accentuer l'information des conseils municipaux. Aussi, dorénavant, le DOM s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale, ainsi que sur la structure de la gestion de la dette. Le budget est élaboré par les élus référents dans leurs compétences respectives et les techniciens de leur domaine de spécialité, c'est ce que vous expliquez. Les budgets 2019 seront votés par anticipation avant la clôture des comptes administratifs. Ils n'intégreront donc pas les résultats de ces derniers qui sont repris avant le mois de juin au moment du budget supplémentaire. On a mis les budgets, mais ce sera en fait que ce budget puisqu'il n'y a plus que le budget général. En raison de la décentralisation des crédits, il a été retenu de présenter le budget principal par gestionnaire de crédit. 9 pôles de compétences, l'administration, la finance et les ressources humaines, l'économie, la culture, les services en face jeunesse, les services techniques, la police municipale et l'urbain. Vous le trouverez dans ce document. Quelque chose qui est très très bien, qui fonctionne très bien, et encore une fois, bravo aux techniciens. Donc, Nathalie organise de temps en temps, à un moment, des réunions par gestionnaire de crédit, et chacun nous dit, voilà, je suis en train de suivre ma ligne budgétaire, mais avec fierté, des fois on nous dit, on a réussi à faire une économie sur ce point, et je le rends hommage. Ceci permet de diminuer les lignes de saisie, mais également de faciliter les transferts d'une destination vers une autre en cours d'année, sans nécessité de décision modificative budgétaire. Cette organisation s'apparente à la logique d'une ventilation par fonction plutôt que par nature en vigueur dans les grandes collectivités. Ces éléments ont été présentés à la Commission des Finances le 12 novembre dernier. Le conseil municipal, ayant oui l'exposé du maire, a débattu, enfin c'est surtout moi qui ai varié, des orientations budgétaires 2019 du budget principal de la commune de Courtaison. Alors, encore une fois, si vous n'avez pas eu le temps d'y travailler dessus, c'est à votre disposition allez-y, ça vous préparera pour le vote du prochain budget. Nous passons au budget principal pour le point la subvention, les subventions exceptionnelles. Ça a été traité en commission des finances. Le judo club sollicite la commune pour l'obtention d'une aide financière exceptionnelle pour le paiement de son loyer au foyer laïque. Le badminton club intercommunal sollicite la commune pour l'obtention d'une aide financière exceptionnelle pour l'achat de matériel. Le public courtaisonnier représente 40% de l'effectif total sur la base d'un coût de 1 800 euros porté par trois communes. Après l'avis de la commission communale des finances du 12 novembre, il est proposé de procéder à l'octroi d'une subvention exceptionnelle aux associations suivantes. Pour le judo club, 2500 euros comme aide au paiement de son loyer au foyer laïque, c'est quelque chose qu'on fait depuis 3-4 ans. Au badminton, c'est une subvention donc spécifique, 600 euros puisqu'on est parti sur le fait qu'il y avait trois communes, 1800 euros, ça fait 600 euros pour l'achat de matériel. Considérant les crédits ouverts au budget principal, le conseil municipal y a ouï l'exposé du maire et à pouvoir délibérer objet du vote, décide d'accorder les subventions exceptionnelles susvisées pour 3100 euros, dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018 de la commune. Je mets aux voix, qui est contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Toujours dans le cadre budgétaire, on annule des titres. Dans sa séance du 28 février 2018, la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse a constaté la situation de surendettement du dossier. La commission impose une mesure d'effacement de la dette. Pour la commune, il convient d'annuler la créance concernant la cantine par l'émission d'un mandat ordinaire au compte 65-4 pour un montant de 1123,60. Considérant les mesures imposées par la commission de surendettement du 28 février 2018, le conseil municipal, y a oui l'exposé du maire, est présent à avoir délibéré, enfin objet du vote, décide d'annuler la créance cantine par l'émission d'un mandat ordinaire au compte 65-42 pour un montant de 1123,60. Je mets aux voix qui est contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Point 10, modification du tableau des effectifs. Suite à la réussite du concours de technicien de nos agents, il s'agit d'Annie Pérez qui s'occupe des ressources humaines. Il convient de modifier le tableau des effectifs et d'offrir et d'ouvrir le poste manquant technicien territorial. Le conseil municipal, y a eu l'exposé du maire et après avoir délibéré, j'ai du vote, approuve la création de ce poste, dit que le tableau des effectifs de la commune est actualisé en conséquence, dit que la création de ce poste est prévue au budget 2019, autorise le maire à signer toutes les pièces rapportant à la présente délibération. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Unanimité, je vous remercie. Tiens, je vais boire un coup. C'est ton domaine de compétence.
Bonsoir. Donc, le point suivant qui concerne le séjour au ski au Mont-Genèvre du 9 février au 16 février 2019. L'accueil jeune organisera du 9 au 16 février 2019 un séjour ski de 8 jours et 7 nuits au Mont-Genèvre. Ce séjour offre une capacité d'inscription de 18 places pour les adolescents et mobilisera 2 animateurs et 1 directeur. Le coût total du séjour est estimé à 18 252, soit un prix de revient moyen par enfant de 1 014 euros. La CAF MSA participe à hauteur de 4 045 euros. La participation des familles est donc de 375 euros. Une majoration de 25% pour les extérieurs, soit une participation de 6 750 euros. L'AJC, qui est l'association des jeunes, participe à hauteur de 324 euros afin de couvrir une sortie raquette. Le différentiel entre dépenses et recettes sera financé par la municipalité sur le budget annuel de fonctionnement alloué à l'accueil jeune. Le montant est estimé à 7 133 euros, soit 39,08% du prix du revient de séjour.
Merci Benoît. Le conseil municipal y a voulu exposer et après en avoir délibéré, objet du vote, approuve le plan de financement du séjour ski de 8 jours au Mont-Genèvre, dit que les crédits correspondants sont prévus au budget principal 2019 de la commune. Je mets aux voix. Qui est contre ? Abstention, unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne l'urbanisme, je donne à Jean-Pierre.
Merci. Donc ce point est dans le droit fil d'un point qui a été développé au précédent conseil municipal. La commune de Courthézon et l'établissement public foncier ont signé le 11 juillet 2018 une convention d'intervention foncière sur le site centre-ville du Sceau, en phase impulsion-réalisation pour un montant de 2 millions d'euros jusqu'au 31 décembre 2023. Le projet de la commune s'inscrit dans la rénovation du centre ancien historique par une opération de restructuration urbaine de l'îlot du Sceau, avec un objectif de production d'environ 50 logements, dont 15 logements locatifs sociaux, des équipements et des commerces ou autres destinations. L'îlot du Sceau est constitué d'un ensemble contigu de bâtiments sur un périmètre global d'environ 3659 mètres carrés. Il est composé d'une ancienne maison de retraite, aujourd'hui désaffectée, qui porte son nom, impliquée dans un tissu urbain à vocation résidentielle et de commerce, au cœur de la ville, du secteur commerçant à proximité de la gare et des services publics et de la commune. Le bâtiment principal, qui s'élève sur trois niveaux, s'ouvre sur un vaste jardin d'agrément et dispose d'une ancienne chapelle héritée de la vocation historique de ce site. L'îlot du Sceau est classé en zone UA dans le plan local du urbanisme en cours d'élaboration. Le site est pour partie classé en aléa moyen d'inondation au PPRI de Louvèze, approuvé par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2009. La commune a sollicité l'établissement public foncier en date du 25 septembre 2018 pour étendre le périmètre initial de la convention foncière à une friche commerciale située en face de la maison de retraite sur l'avenue Victor Hugo. De par sa situation au cœur du centre historique de la commune, la friche commerciale est une réelle opportunité pour le réaménagement et le développement du centre-ville de Courthézon. Le nouveau périmètre centre-ville concerne un périmètre global d'environ 6200 m². Le projet de restructuration de l'ensemble doit conduire à une réduction globale de la vulnérabilité en intégrant une gestion optimisée de la crue et des écoulements rapides de Louvèze et de la Seille. La prise en compte du PPRI rend inexploitable tout le rez-de-chaussée de la mairie pour la création de logements, imposant leur localisation exclusivement aux étages. C'est dans ce contexte que la commune de Courthézon demande à l'établissement public foncier PACA l'extension du périmètre afin de développer un projet d'ensemble composé de 50 logements, dont 15 logements locatifs sociaux, d'équipements publics et d'activités économiques sur le centre-ville. Il s'agira à la fois d'accompagner la commune dans sa démarche de programmation et d'acquérir le foncier nécessaire à l'opération. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les délibérations du 21 juin 2018, vu la convention signée avec le PF PACA en date du 11 juillet 2018, vu le projet d'avenant transmis par le PF PACA en date du 15 octobre 2018, vu l'avis favorable de la Commission d'urbanisme et patrimoine du 6 novembre 2018, bon, considérant, c'est à toi d'indiquer les considérants, je te laisse finir.
Alors, considérant l'intérêt pour la commune d'avenanter la convention avec le PF PACA afin de permettre un aménagement global du périmètre envisagé et de réaliser un programme de logement et d'équipement public, le conseil municipal, il a voulu exposer et après en avoir délibéré, objet du vote, approuve le projet d'avenant à la convention de l'EPF PACA, autorise le maire à signer cet avenant si après annexé, ainsi que tout document s'y rapportant. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Abstention, majorité, je vous remercie. Le point suivant concerne, donc je pensais qu'on aurait des gros commentaires, non, je pensais qu'on allait débattre sur ce sujet, mais je continue. Bon, le lotissement, j'en parle. Allez, le lotissement. Donc, le point suivant, par délibération du 12 juillet 2018, la commune de Courthézon a intégré la voirie du lotissement Saint-Étienne dans le domaine public. Il convient de valider la dénomination de la voirie desservant le lotissement Saint-Étienne afin de permettre son intégration définitive dans la voirie communale de ce lotissement situé route de la Plaine. Il est donc proposé de baptiser la rue desservant le lotissement Suisse-Visé comme suit, impasse de la chapelle. On a choisi ce mot parce qu'il y a une chapelle qui est profane, ma fille, qui était à côté. La numérotation des habitations est inchangée pour éviter tout désagrément supplémentaire aux habitants du lotissement Saint-Étienne. Vu le code général des collectivités territoriales, considérant la nécessité de dénommer la voirie du lotissement Saint-Étienne, considérant la nécessité de valider la dénomination du lotissement Suisse-Visé, le conseil municipal y a eu l'exposé du maire et après en avoir délibéré, objet du vote, approuve la dénomination de la voirie du lotissement Saint-Étienne, dit que la voie interne desserte du lotissement sera dénommée comme suit impasse de la chapelle, dit que la numérotation ne sera pas impactée par cette modification. Je mets aux voix. Qui est contre? Abstention. Unanimité. Pardon. Je vous remercie. Le point 14, le dernier point, concerne la convention à signer avec la Poste pour devenir agence postale communale. La Poste ayant modifié depuis quelques mois ses horaires d'ouverture, soit 14h30 pour plus de 6500 habitants. La commune souhaitant assurer le maintien des services publics de proximité, dont le service postal, la Poste a proposé de créer une agence postale communale au sein du Centre communal d'action sociale. C'est pourquoi la commune a accepté de conclure une convention avec la Poste afin de préserver dans les meilleures conditions la présence du service public postal. Ce conventionnement s'inscrit dans un cadre d'accords nationaux entre la Poste et l'Association des maires de France. Vu la loi du 2 juillet 90 sur l'organisation du service public de la Poste, vu la loi du 4 février 95 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les termes de la convention à passer avec la Poste pour l'organisation de la future agence postale communale. C'est important de bien comprendre dans quel contexte ça se passe. La convention a pour objet de fixer les modalités d'organisation de l'agence postale communale afin de garantir la proximité du service public postal. L'agence postale est fonctionnellement rattachée au bureau central de Monteux. Les prestations proposées par l'agence postale sont d'une part un certain nombre de produits et services postaux. La liste de l'ensemble des prestations sera limitativement énumérée dans la convention. La Poste s'engage à installer et entretenir le matériel et les équipements propres au fonctionnement de l'agence postale. En contrepartie des prestations fournies par la commune dans le cadre de son partenariat, la Poste versera une indemnité compensatrice forfaitaire de 1 015 € par mois, revalorisée chaque année au 1er janvier, ainsi qu'une indemnité exceptionnelle d'installation égale à minima à 3 fois le montant de l'indemnité compensatrice mensuelle, versée une seule fois. La Poste s'engage à délivrer les formations nécessaires au fonctionnement de l'agence postale aux agents en fonction à l'agence postale. Ces formations seront délivrées à chaque changement titulaire. Cette convention sera signée pour 9 ans renouvelable une fois. Cette démarche est faite en lien étroit avec le CCAS. L'agence postale communale sera assise 3 bis boulevard Henri Fabre et offrira au public une ouverture de 35 heures par semaine réparties sur 5 jours. Il est soumis à l'approbation de l'Assemblée une double partenariat en vue du maintien du service public postal dans ce secteur, avec la Poste dans le cadre national de la création des agences postales, avec le CCAS qui portera la gestion de la dite agence postale. Avant de rentrer dans la délibération, je vais faire quelques commentaires. Après, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Parce que, alors, on est là, un conseil municipal, c'est public, et puis on l'a en toute transparence. J'ai horreur des éléments qui sont rapportés et qui sont pas les éléments réels. Donc, ce problème postal, ça fait plusieurs années qu'il dure, on va être clair. J'ai reçu les responsables de la Poste. Je rappelle aussi que le bâtiment de la Poste, on en est propriétaire. Bon. Donc, il nous paie un loyer, qui est d'ailleurs pas du tout très élevé, et aujourd'hui, à un moment, la Poste est venue nous dire, attendez, il faudra mettre en conformité, on est en conformité pour l'accès handicapé, mais il y avait des travaux à réaliser, l'appartement qui était l'appartement du receveur est libre, mais il n'est pas exploitable. Il fallait donc réaliser là aussi des travaux. Donc c'est tout un ensemble de contextes. Et puis, on est venu nous dire, bon écoutez, on recentralise tout. C'est d'actualité, vous avez dû remarquer que la caisse d'épargne a fermé et qu'aujourd'hui on ne s'est pas posé de questions, elle est partie de facto à Orange. Bon, et là on n'a pas eu à dire, ben, on va prendre le relais sur ce point-là. On réfléchit pour voir avec Minibus si on rend nos personnes âgées pour apporter ce service-là, caisse d'épargne, ce sont des personnes âgées qui aimaient la proximité. On a été mis devant le fait accompli. Donc là, on nous a dit, ben, vu le contexte, les gens aujourd'hui font des opérations par Internet, et s'il y a de la concurrence, on réduit les horaires, et on a tellement réduit les horaires qu'aujourd'hui, c'est dit dans la délibération, la Poste assure une horaire qui est de 14h, je sais pas combien, voilà, 14h30 hebdomadaire. Bon, moi je leur ai fait remarquer qu'on avait plus de population, au moment où on a plus de population, on se retrouve qui réduisent les horaires et qui a la queue à la poste. Bon, on nous a dit que c'était sans appel et que dans les mois qui suivent, leur idée était tout simplement de quitter le bâtiment postal et de trouver des relais dans les commerces, vous savez comment ça se passe déjà pour récupérer des colis, etc. Donc, de trouver des relais pour que ces relais servent d'éléments postales. C'est-à-dire, en gros, pour eux, la poste disparaît. Donc, alors, on s'est posé la question plusieurs fois, donc, au niveau de l'équipe municipale, et on a négocié plusieurs points, en particulier la participation financière, puisqu'on nous donne 1000 euros par mois. On en a demandé le triple, ça nous a été refusé en nous disant ça a été validé par l'Association des maires de France, et donc c'est national, et on va pas déroger à Courtaisan, puisque d'autres communes l'ont accepté comme ça. Bon, dont acte. On a négocié au niveau des équipements, puisque vous avez vu qu'ils nous disent qu'ils versent trois fois le montant mensuel, c'est-à-dire 3000 euros. On en est aujourd'hui à 10 000 dans la mesure où si on arrive à leur justifier qu'il y a 10 000 euros de travaux à effectuer au CCAS, ils les financeront. Il a fallu aussi qu'on voit avec le personnel du CCAS, puisque bon, c'est une charge supplémentaire pour ces agents. Donc, et là aussi, il y a eu beaucoup de débats, puisqu'à un moment, la question était, est-ce qu'on prend la poste dans son entité, et qui dit poste, dit service bancaire. Bon. Le côté service bancaire, je vous cacherai pas, a inquiété notre personnel du CCAS. Ce qui est normal. Donc, du coup, nous avons retiré la partie service bancaire. Bon, ce qui va peut-être poser un problème en tant que service. On essaie d'apporter des services et on essaie aussi de prendre en compte ben, la manière de travailler avec nos agents. Donc, on a retiré cette partie-là. Voilà. Donc, et on est arrivé à un processus qui fait que, bon, on arrive à offrir un service qu'on passe à 35 heures, donc on n'a plus rien à voir avec les 14h30 qui étaient mises en place. On a regardé en matière de logistique comment ça pouvait s'organiser. On y parvient. On nous a donné les taux de fréquentation. Bon, Sandrine, on a dit qu'on allait apprécier pêcher dessus, parce qu'il travaille à la poste. Voilà. Dans l'immédiat, donc c'est une opération qui prendrait acte à partir de, disons, première quinzaine de mars, puisque c'était... Ah, ça y est, c'est fixé le 6 mars. Bon, parce que il y avait en fonction des travaux à réaliser. Donc, j'ai vu, pas plus tard qu'après-midi encore, Serge Fidel, maire de Caderousse, où il s'est passé la même chose, et où il m'a dit, eux, ils ont pris aussi le service banque. Bon. Et il m'a dit que ça se passait très bien, que la population était ravie, puisque, bon, enfin, c'était un service, alors, nous, dans l'immédiat, on va faire par palier, dans l'immédiat, on écarte le service banque pour rassurer un petit peu nos agents et voir déjà comment on va fonctionner en matière de sécurité. De toute façon, il est prévu un SAS, hein, donc au niveau du CCAS, pour comme ça existe aujourd'hui dans le système de banque. Voilà. Donc, pour résumer, il n'y a pas un élément, on n'a pas forcé nos agents, on a discuté avec eux, nos agents du CCAS, ils ont compris, c'est un peu une fonction sociale, donc que ça pouvait être un élément qui apportait un service au niveau de la population. On est une maison de services publics, donc au niveau du CCAS. Bon, une amplitude qui change complètement, donc on multiplie par 2,5 l'amplitude. Bon, financièrement, bon an, mal an, on équilibre les comptes puisqu'on utilise notre personnel. Bon, on va revoir un petit peu l'utilisation de certaines personnes. Bon, voilà, mais ça va pas être une surcoûte énorme par rapport aux services qu'on apporte. Voilà, que Marité, est-ce que j'ai peu brossé toute la situation, voilà. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Oui, Pierre.
Oui, je voudrais intervenir sur ce sujet. Parce que, oui, c'est bon. C'est un sujet qui est quand même sensible et on est quand même étonné d'avoir à justement statuer sur la transformation en agence postale communale. On s'est renseigné un petit peu, on regarde également combien il y a de communes en France, combien il y a de bureaux de poste, quelle est la typologie des bureaux qui ont fermé. On se dit que cet accord, l'accord du Conseil étant nécessaire, compte tenu aussi des missions que se fixe la Poste, peut-être y aurait-il une autre solution. Alors, je voudrais quand même expliquer un petit peu notre mode de réflexion. En France, il y a 36 000 communes. Ça n'étonne personne, bien sûr, mais ce que l'on sait peut-être moins, c'est qu'il y en a quand même 50% qui ont moins de 500 habitants et qu'il y en a 90% qui en ont moins de 2000. Donc, il y a vraiment dans des zones rurales. Et quand on regarde un petit peu, et quand on a la curiosité de regarder un petit peu dans quel type de communes les agences postales sont créées, c'est bien souvent des communes de 150 ou 500 habitants, ainsi de suite. On peut aller même jusqu'à 4000, effectivement. On a eu des exemples de communes où la transformation d'agence postale communale a été avec une population de 4000 habitants. Et puis après, il y a une autre typologie d'agences postales qui se créent dans les milieux urbains, bien souvent, une grande ville peut avoir plusieurs bureaux de poste, et partant de là, il peut y avoir des regroupements. Voilà, on est quand même un peu étonné parce que, j'allais dire, sur le plan de voisins, qu'il s'agisse de Jonquière, Bédaride ou Sarria, c'est vrai que les bureaux de poste sont ouverts matin et après-midi, et notamment à Sarria, celui-ci, ils ont peut-être simplifié l'accueil au guichet, mais il est appuyé par des automates de versement, de retrait, de remise de chèques. Ce qu'on pourrait également souligner, c'est que la Poste, malgré son statut qui a évolué, elle a une mission de service public. Et quand on a la curiosité de regarder un petit peu ce que sont ces missions, eh bien, dans l'aménagement du territoire, il est question de renforcement de la présence postale. Il est question aussi, pour les opérations bancaires, de l'accessibilité bancaire, puisque la Poste gère un grand nombre de livrets A, et d'ailleurs, effectivement, c'est le placement préféré des Français, et certainement, effectivement, la Poste avait une part de marché conséquente. Et puis il y a également un point qui est l'engagement citoyen, c'est le développement des services de proximité et services bancaires. Donc je me dis que, sachant que l'accord pour passer en agence postale communale est soumis d'abord à l'accord du conseil municipal, il me semble que si cet avis était négatif, on pourrait peut-être repartir sur des bases et continuer peut-être avec des horaires réduits, mais les perspectives de développement sont quand même là à court saison, avec donc des gens dont c'est le métier. Parce que je ne doute pas que le personnel du CCAS soit tout à fait apte à faire ce genre de mission, mais il me semble aussi qu'ils ont, ils vont garder les missions qui sont les leurs. Donc je me dis, est-ce que véritablement on va, en dehors de la plage d'ouverture, gagner en qualité de service Et puis peut-être aussi un souci en matière de sécurité, puisque ben, aujourd'hui, il va quand même, s'il n'y a pas d'opération bancaire, il va quand même y avoir des fonds de caisse pour ce qui est les thèmes ou les recommandés ou des choses comme ça. Et c'est vrai que les hold-up ou les braquages sont déplacés des banques qui se sont protégées et qui ont dématérialisé les retraits de fonds vers justement les commerces. Donc il y a aussi un peu ce souci-là. Donc je me dis, est-ce que véritablement le fait de dire, ben écoutez, non, nous ne sommes pas d'accord, le conseil municipal de Courthézon n'est pas d'accord parce qu'il estime qu'il y a des perspectives, à ce moment-là, voir sur quelle base on pourrait peut-être reconsidérer le problème et maintenir une agence postale, mais une véritable agence postale. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà, bon, donc nous, ben, si on le soumet, c'est que, dans le cadre de la majorité, on s'est dit que on n'avait pas trop le choix, on n'a pas cherché la meilleure solution, on a sûrement cherché la moins mauvaise, parce que vraiment, le dialogue que j'ai eu, je l'ai eu aussi avec eux, en tant que président de la CCPRO, ils sont venus me voir pour me faire part de leur projet de développement, et pour eux, les côtés activités de métier de base, j'ai même souri, parce que au moins je leur ai dit, vous allez livrer les pizzas, parce que bon, on savait à un moment que la poste, c'était d'abord la poste, après c'était la banque, après c'était les assurances, etc. Comme à l'inverse, les banques ont aussi diversifié. Donc, mais ils m'ont fait toute une série de propositions connexes qui n'ont plus rien à voir avec le cœur de métier. Et ils m'ont expliqué ça parce que, ben, pour eux, justement, les modalités des personnes, des façons de vivre ont changé, etc., même en matière bancaire, puisque les gens gèrent maintenant leur banque, leur système bancaire par leur système informatique. Et nous, ce qu'on a vécu par contre, c'est que le jour où ils ont décidé qu'ils passaient à 14h30, d'ailleurs, ils ont pas mis 6 mois pour, ils nous ont dit, on ferme le bureau, ça se rouvre que le matin. Et on savait très bien aussi qu'ils allaient nous tomber sur la tête, qu'un jour on nous dise, eh bien ça y est, on a trouvé des personnes aptes, prêtes à accueillir le service commercial d'enregistrement, et fait des colis, etc. Et dont acte, c'était terminé. Donc, et j'aurais mal vécu qu'on nous dise, ah ben voyez, ben ça y est, vous avez laissé partir ou fondre les services postaux alors que vous étiez averti. Donc, on a pris les devants, enfin pris devant dans la mesure de nos moyens, en disant le taux de présence, enfin, je peux pas supporter que les gens fassent trop la queue dans ce système-là. À partir du moment où on s'est pris des garanties, donc en matière, ben, encore une fois, des compétences du personnel qui sera formé, j'ai pas de souci de ce côté-là, on a de bonnes agents. À partir du moment où on élimine le risque bancaire, et puis après on verra bien, encore une fois, à Cadrou, s'ils l'ont pris, ça se passe très bien, voilà. Donc, mais pour nous, c'était un service, compte tenu de la population qui croit, bon, c'est un service qu'il fallait rendre à la population, et plutôt que de se dire, on est mis devant le fait accompli. Dans leur stratégie, alors j'ai posé la question, pourquoi Jonquière reste ouvert? Parce que Jonquière est ciblé pour être tel élément comme ça. Donc, en gros, Jonquière a, je vais être clair, 2-3 ans de sursis de plus par rapport à nous. Voilà, leur réponse, c'est ça. Mais dans l'immédiat, dans leur idée, c'est, on est amené, on change complètement notre cœur de métier. Voilà. Et nous, placés devant cette situation-là, bon, moi je peux dire, je vois déjà la séance ici, hein. On ne faisait rien, mais on se prenait dans les gencives, ben, peut-être par toi ou d'autres, vous avez un bureau de poste qui a fermé, et vous l'avez laissé faire comme ça. Donc, on a préféré travailler dans les bonnes conditions, qui soient humaines, financières, en matière de services. Alors après, si on est en matière d'idéologie, on pourrait toujours dire, c'est quand même dommage que la poste qui est dans le métier se débarrasse. Mais bon, on n'est pas en train de dire, en faisant ça, on va crever le budget de la commune, c'est pas le cas. En faisant ça, on enlève du travail d'autres personnes, en assurance que les gens qui travaillent à la poste continuent à travailler à la poste, c'était prévu. Ils m'ont dit, nous, les agents sont amenés à des mutations, ils le font déjà. Voilà, il y a, qu'on n'aille pas nous dire, vous avez enlevé le pain de la bouche de certains salariés. Ça, c'est un point qui est important. Voilà. Donc, mais après, on est en droit de le juger comme tel. Mais qu'on ne fasse pas le procès de dire, vous avez, nous, on, voilà, on a anticipé le fait qu'il y ait une fermeture plus raide du bureau postal.
Il y a un petit élément qui me vient à l'esprit, parce que la Poste aussi, bien sûr, regarde sa rentabilité, et elle estime aujourd'hui que sur 100% d'opérations, il y en a 80 qui sont peut-être à faible valeur ajoutée, parce que c'est les opérations de vente de timbres, de recommandés, de distribution de colis ou de réception de colis, et seulement 20 donc qui sont sur les services financiers et qui sont les plus rentables. Et cette part de 20% n'est estimée pas suffisante pour maintenir le bureau. Un des éléments qui expliquait cette situation-là, c'était que la concurrence bancaire sur Courtaison était plus importante qu'ailleurs. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle soit notoirement plus importante, puisque une agence bancaire vient de fermer, la Caisse d'Épargne, tu l'as rappelé tout à l'heure. Et partant de là, alors c'est relativement récent. Je pense que ça devait être su et intégré. Mais néanmoins, c'est peut-être un argument aussi à faire valoir en disant, ben écoutez, aujourd'hui quand même, peut-être pourrions-nous conserver ceci parce que le paysage bancaire à Courtaison s'est modifié.
Oui, Pierre, ben, des arguments on en avait. On leur a expliqué que Courtaison s'est développé en matière démographique et que on était en train de passer à 5 500 à 5 008 et peut-être 6 000 habitants. Donc ça signifiait que loin de devoir réduire leur masse horaire, ils auraient dû l'augmenter. Et ils l'ont réduite, puisque un bureau qui était ouvert toute la journée, ils l'ont ouvert plus que le matin. Donc pour eux, ça y est, c'est des directives, on pouvait sortir tous les arguments possibles. C'était en gros, nous faisons en sorte que vous soyez un peu mis devant le fait accompli, et que, bon ben voilà, vous prenez les choses en main, ou alors, eh bien, on se débrouillera d'une autre manière. Et à mon avis, c'était, encore une fois, pas forcément la meilleure, mais sûrement la moins mauvaise, que d'aller dire, on a trouvé un commerce qui nous dit, ben nous, allez, je veux bien prendre le courrier, moi je veux bien prendre les timbres. Bon, il y avait l'opportunité qu'au CCS, on avait des gens volontaires, qu'en matière de stationnement, on est en train de travailler dessus, ça sera parfaitement opérationnel, mieux qu'à la Poste actuelle, parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours commode. Donc, totalement adapté à l'accès handicapé. Voilà, donc, on va partir un petit peu là-dessus. Alors, je finis ma délibération. Le conseil municipal, il y a où l'exposé du maire est présent d'avoir délibéré, approuve la convention entre la commune et la poste pour l'ouverture de l'agence postale communale, approuve l'installation de l'agence postale dans les locaux du CCAS, autorise le maire à signer la convention à venir avec le CCAS, autorise le maire à signer toute pièce afférente à la présente délibération. Je mets aux voix qui est contre. 3. Abstention. Voilà, Sandrine. Et qui travaille à la poste, je lui avais dit que je voulais pas la mettre dans des situations particulières. Et majorité, je vous remercie. Les décisions du maire, bon ben vous les avez sous les yeux, je préfère venir en questions diverses, c'est plus important. Donc vos décisions du maire, vous les avez sous les yeux. Je voulais évoquer juste rapidement quelques points dans les questions diverses. Bon, on vous a donné le programme des festivités de Noël, tu voudras en dire un petit mot, Corinne?
Juste préciser que bon, ça commence vendredi prochain avec la parade des Lumières pour finir avec les vœux le 11 janvier, les vœux du maire. Voilà.
Merci. Deuxième point, je voulais évoquer les 100 ans l'armistice de la guerre 14-18. Que nous avons voulu marquer, l'État nous l'avait demandé, mais même sans cela, on avait déjà prévu une année d'avant de s'en occuper. Donc je remercie Marité, le maire et son mari Jean-Pierre qui est parti, parce que qui sont énormément investis, continuent d'ailleurs à s'investir dans cette opération. Je lui laisse un peu la parole d'ailleurs si vous voulez, puisque vous expliquez.
Oui, je vous remercie monsieur le maire. Vous avez tous un petit fascicule sur la Avignon, ville de garnison. Ce fascicule nous a été offert par l'ONAC, Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre, à ma demande, pour marquer le centenaire. C'est un petit livret qui est très intéressant sur notre ville d'Avignon. Donc, il est offert. Par ailleurs, à partir de ce soir, il y a une très belle exposition en partenariat avec la municipalité, à la bibliothèque du foyer laïque. Cette exposition a été inaugurée à 18h30. Personne n'a pu y aller puisque nous sommes tous en conseil municipal. Donc je vous invite à aller la voir. Je crois que demain, en tout cas samedi matin, ce sera ouvert. C'est une exposition qui se nomme La guerre des crayons. C'est une exposition qui est unique. Il y a deux exemplaires en France. Et j'ai pu la voir parce que j'ai demandé depuis plus d'un an auprès de l'ONAC, bien sûr. Et cette exposition n'était pas à Avignon. Elle était à Paris, puis dans la Creuse, puis ailleurs. Et le foyer a voulu l'inaugurer ce soir, alors que normalement c'était à partir de demain. Et j'ai pu la voir hier, de façon tout à fait exceptionnelle, grâce à l'aide significative de l'ONAC, qui est allée la chercher quelque part, quoi, puisqu'elle était bloquée quelque part. Donc, à cause de ce qui se passe dans notre pays. Donc, je vous invite à aller la voir. Dommage, on a raté l'inauguration ce soir, mais je vous invite à aller tout de même au foyer puisqu'il y a des lectures. Il y a des lectures qui vont se terminer vers 20h30. Voilà. Donc des lectures à propos de, bien sûr, des lectures diverses et des lectures sur le centenaire.
Merci Marité. Oui, je tiens à remercier aussi tous les élus qui ont été présents lors de la cérémonie au cimetière. Il y avait beaucoup de monde, on y est tous sensibles, les expositions qui ont eu lieu là, avec l'appui de M. Charras, hein, qui est toujours présent bénévolement, le souvenir français, là, donc pour ces opérations, puis les écoles, les enseignants et les enfants qui sont venus, qui ont lu les lettres de Poilu, bon, c'était des moments d'émotion, et ça fait partie de nos pages d'histoire. J'ai noté aussi, je vous ai dit, je vais pas y passer trop de temps, mais tout à l'heure, je vous ai donné le bilan feuille 2017 traitement des déchets. C'est un point, j'alerte un petit peu, c'est un point qui me fait souci en tant que maire, en tant que président de la CCPRO, pour que vous ayez les bonnes informations. Donc, nous savons depuis quelque temps, ça a été acté, que ce qu'ils appellent la colline, donc le dépôt de Delta Déchets, ne pourra plus accueillir de déchets à partir de mars 2019. Donc mars 2019, c'est demain. Bon, donc du coup, il nous faut absolument trouver des solutions de substitution, et la solution de substitution, c'est le Sinomra, donc qui se passe à Veden, qui n'avait pas les autorisations ou capacités de nous accueillir, et qui a obtenu une augmentation de 20 000 tonnes. 20 000 tonnes, c'est exactement la somme de la CCPRO 15 000 et la CCAOP 4 000. Donc, techniquement, ils peuvent nous prendre. Sauf que ils incinèrent, l'incinération coûte beaucoup plus cher que l'enfouissement, ce qui se comprend. Il y a une énorme dépense d'énergie. Donc, ça signifie que ça va impacter notre budget. Enfin, on n'a pas un budget annexe. Avant, on avait un budget annexe d'ordures ménagères. Maintenant, ce budget est incorporé dans le budget global. Donc, deuxième facteur, le transport. C'était plus rapide d'aller à Delta Déchets que d'aller à Veden. Donc, on est en train de calculer comment on va pouvoir condenser nos déchets dans un quai de, on appelle ça un quai de transfert, c'est-à-dire faire du dépotage par les camions classiques pour ensuite condenser, que des gros camions se rendent à Veden. Pour ça, il faut faire un quai de transfert, il coûte 1,3 million. Donc, il se ferait au Citoro. Le Citoro qui était l'ancien lieu, hein, donc, où on apportait avant les ordures ménagères. Je voulais surtout dire que, et Marité y participait tout à l'heure, il y a quand même une solution, et on est en plein dedans, c'est que il va falloir tout simplement que les ménages réduisent ou se disciplinent dans la gestion de leurs ordures ménagères. Voilà. On pourrait y arriver assez facilement. Voilà. On trouve n'importe quoi dans les bennes. Alors, bon, on a fait en sorte de les responsabiliser en donnant des containers individuels, etc. On est en train de mettre en place, c'est à la Barade, donc des points d'apport volontaires qui sont des gros blocs où les gens vont arriver et ils auront ça. Et l'expérience qui se passe ailleurs montre que les gens, du coup, eh bien, ils font ce tri là sur place, et on réduirait de 30% les ordures ménagères Donc, eh bien, en gros, on compenserait le coût qui va nous être demandé pour... alors, on est en train d'y travailler dessus. Il y a un concours d'affiches qui a été lancé, qui se déroule en ce moment. Donc, les écoles... qui c'est qui a participé ? Je sais plus, enfin, voilà. Les écoles y ont participé. Voilà, les écoles de courtisans y ont participé. Il y a une trentaine d'affiches, elles sont exposées à la CCP Roux. On a voté aujourd'hui, enfin les agents votent, les élus votent, et cette affiche, l'affiche retenue, sera tirée et sera utilisée dans tous les supports de communication pour que les gens se disent, ben, si je fais un effort, je m'y retrouve à la fois par esprit d'environnement, et puis, ben, puisque c'est souvent la main au portefeuille qui compte, c'est d'arriver à se dire que, bon, on peut arriver à faire des efforts. Comme je l'expliquais, on a eu une réunion lundi chez le préfet qui nous a conforté dans le fait que ben, il n'y avait pas de solution autre. Il y a, quand je dis qu'on met la main au portefeuille des gens, notre système n'est pas bon. Mais pour le changer, ce sera très difficile. Quand je dis qu'il n'est pas bon, c'est-à-dire que il est facile, l'avantage qu'il est facile en matière de finances, les taxes sur les ménagères sont basées sur la taxe foncière. Donc, ce qui signifie qu'une personne peut être seule dans un très grand bâtiment et payer 500 euros d'ordures ménagères alors qu'elle consomme rien, et une famille peut se retrouver dans un petit local où ils sont 4 ou 5, etc., et on va se retrouver à payer le dixième. Voilà. Donc, alors, si on veut sensibiliser les gens, ça se passe dans certaines villes, ils ont leur container qui se fait au poids, et là, je vous garantis que dans ce cas-là, ben, chacun se dit, attention, parce qu'à la fin, je vais avoir ma facture. Voilà. Ça exige une grosse mise en place, mais bon, il faut s'y pencher dessus, parce que sinon, on n'y échappera pas. Voilà. Il y a un point sur lequel on travaille, aussi, c'est le gros problème des déchets verts. Bon, on a demandé aux gens de ne plus brûler, bon, voilà, mais du coup, on se retrouve avec des masses de déchets verts qui sont énorme, voilà. Et ça, bon, on a calculé peut-être de mettre en place des broyeurs. Il y a des communes qui vont à domicile pour faire un broyage des végétaux. Bon, c'est en train d'être étudié pour faire en sorte que, parce que je comprends quelqu'un qui doit faire 25 voyages avec sa remorque, il hésite à les faire. Bon, il y en a qui sont tentés à brûler, voilà, parce que bon, c'est un problème. Et à la déchetterie, c'est ben, les déchets verts, c'est le troisième poste de coûts. Voilà, je vais vous en parler. On va jouer cette carte avec la jeunesse, avec les enfants, parce que les écoles, ça marche. Mais voilà, c'est un point qui est important. Je continue. Oui, madame, allez-y.
Oui, c'est juste, il me semble que la communauté de communes où il y a Bolène, Huchot, tout ça, ils sont passés à des choses où on pèse, où il faut une carte. Je me trompe ou...
Alors moi, je connais la communauté de communes de Bolène, mais je ne sais pas s'ils sont à ce niveau-là.
J'en avais entendu parler
par un ami. Je connais d'autres endroits, d'autres intercos où ça se passe, mais je ne sais pas si ça se fait à Bolène.
Mais c'est quelque chose vers lequel vous voulez aller ?
À mon avis, un jour, il faudra y arriver.
Oui, mais ce n'est pas en réflexion encore ?
On fait ça par étapes. Déjà, on va tester le système qui se met en place, qui sera opérationnel mi-décembre. Donc, c'est point d'apport volontaire. L'expérience a montré que on réduisait bien de 30%. Voilà. Alors là, ça porte sur un tiers de nos communes. Hein. Nous, on a choisi la Barade. Bon, et puis d'autres communes ont choisi certains quartiers. Donc la Barade va nous servir de test. Si ça marche au niveau de la Barade, on multipliera ce système-là. Je continue. Je vais noter là et simplement. Bon, écoutez, pour terminer, les dates. Le prochain conseil municipal qui est le 20 décembre, hein, c'est un conseil municipal qui est important puisqu'on y votera le budget. Et puis, au préalable, autant le dire, vous savez qu'on a les vœux au personnel, ça passe vite, hein, donc qui auront lieu le 14 décembre. Je vous le dis parce que le conseil municipal sera pris. Donc le 14 décembre, traditionnellement, dans la salle polyvalente, nous adressons nos vœux au personnel plus le CCAS plus les cigales, les retraités, voilà, personnel actif et retraité, voilà. Et après il y a un buffet, hein, donc c'est un moment de convivialité. Bien, mesdames, messieurs les adjoints, pas de questions, de remarques particulières.
Mais moi, justement, si quelques conseillers se sont rendus compte que je marchais pratiquement absent à la mairie où j'avais l'habitude d'y être dans ma maison, je suis resté 8 jours sans me promener, ça m'a manqué, j'étais malade, une petite dépression, uniquement. Donc ce soir, j'ai tenu à être au conseil municipal avec force, mais j'ai tenu à respecter la maladie.
Merci Marcel, soigne-toi bien. Bonsoir à tout le monde, merci.